Laudetur Jesus Christus.
Nouvel épisode de tension entre Israël et l'Iran. L'attaque d'un pétrolier en mer d'Oman a fait 2 morts au sein de l'équipage. Le gouvernement israélien dénonce une action iranienne et affirme vouloir porter l'affaire devant l'ONU. De nombreux pays font face à une hausse importante des contaminations au coronavirus. Le variant Delta suscite l'inquiétude. En Birmanie, la situation est catastrophique. Les hôpitaux sont saturés et les vaccins manquent, tout comme l'oxygène. Les États-Unis ont accueilli hier un premier groupe d'Afghans ayant travaillé pour eux ces dernières années en Afghanistan. Une opération destinée à les protéger des représailles des talibans qui poursuivent leur conquête du pays. Éclairage dans quelques instants. Et puis nous nous rendrons à Venise où les grands navires de croisière seront bannis du centre à partir de ce dimanche. Réaction du patriarche de Venise à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal Hélène Détombe.
Bonjour, nouvelle tension entre Israël et l'Iran. L'État hébreu accuse Téhéran d'avoir attaqué l'un de ses navires dans le golfe d'Oman ce jeudi. 2 marins ont été tués. C'est le dernier incident d'une véritable bataille navale que se jouent les 2 ennemis dans la région depuis plusieurs mois. Les explications de Lucas de Villepin.
Pour l'État hébreu, cela ne fait aucun doute. Téhéran est bien derrière l'attaque du pétrolier israélien ce jeudi en mer d'Oman. Un assaut mené par des drones qui a fait 2 victimes, un Roumain et un Britannique, membre de l'équipage. Hier soir, Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, a promis de répondre sévèrement à cette agression. L'Iran exporte le terrorisme et met en danger la liberté de navigation dans le monde, a-t-il ajouté. Depuis des mois, cette zone stratégique du golfe Persique, par laquelle transite une grande partie du pétrole mondial, est le théâtre d'une véritable bataille navale. Des bateaux israéliens, iraniens, mais aussi américains sont régulièrement pris pour cible. Pour le moment, pas de commentaire officiel de Téhéran, mais certains médias locaux évoquent une représaille aux frappes menées par l'armée israélienne en Syrie contre les intérêts de la République islamique. Lucas de Villepin à Tel Aviv pour Radio Vatican.
Près de 300 Palestiniens ont été blessés hier en Cisjordanie occupée lors d'affrontements avec des soldats israéliens durant des manifestations contre la colonisation israélienne et lors des funérailles d'un jeune Palestinien tué la veille. D'après l'armée israélienne, 150 Palestiniens ont lancé des pierres et des pneus enflammés sur les soldats. Ces derniers ont riposté à coups de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Le Liban menaçait de nouvelles sanctions. L'Union européenne a annoncé être en mesure d'imposer des mesures ciblées aux dirigeants libanais responsables du blocage politique. Des sanctions envisagées afin d'aider à la formation d'un gouvernement et à l'adoption de réformes pour sortir le pays du cèdre de l'impasse. De nombreux pays font actuellement face à une nouvelle vague de contamination au coronavirus liée au variant Delta. C'est le cas du Japon qui a décidé de prolonger l'état d'urgence à Tokyo et de l'étendre à 4 autres départements alors que plusieurs participants aux Jeux Olympiques ont été infectés. En Birmanie, la crise sanitaire est hors de contrôle. Le variant Delta fait des ravages partout dans le pays alors que les hôpitaux ont cessé de fonctionner depuis le coup d'état il y a 6 mois et les chiffres officiels ne rendent pas compte de la gravité de la situation. Les précisions de Carole Izou.
Plus de 300 morts par jour officiellement, en réalité beaucoup plus selon les médecins et le personnel des crématoriums des grandes villes qui sont débordés depuis des semaines. Lors d'une session devant les Nations Unies hier, des experts birmans de la santé ont prévenu que 50% de la population birmane aura contracté le virus d'ici 2 semaines si rien n'est fait. Sur place, tout manque. Les tests, les traitements, les vaccins, mais surtout l'oxygène, devenu quasiment impossible à trouver, alors que la répression de la junte se poursuit contre les médecins grévistes qui soignent leurs concitoyens dans la clandestinité. Plusieurs arrestations de soignants ont eu lieu ces derniers jours. Les militants anti-junte meurent aussi en masse dans les prisons où le taux d'infection est très élevé. Des membres de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de l'ancienne chef du gouvernement Aung San Suu Kyi, sont décédés des suites du virus. Du côté de l'aide humanitaire internationale, l'absence de dialogue avec la junte et surtout le manque de garanties sur la façon dont sera utilisée cette aide rend pour l'instant tout convoi difficile. Carole Izou à Bangkok pour Radio Vatican.
Et la Chine, premier pays à avoir maîtrisé l'épidémie en 2020, est-elle aussi menacée par cette nouvelle vague de contamination? De nouveaux territoires présentent des foyers épidémiques. Le variant Delta est désormais présent dans 14 provinces. Des centaines de milliers de personnes sont à nouveau confinées, notamment à Pékin. Quelques 200 Afghans sont arrivés hier aux États-Unis, notamment des interprètes qui avaient travaillé avec l'armée américaine en Afghanistan. Après 2 décennies de guerre, les Américains sont en effet sur le point d'achever leur retrait du pays. Ils commencent donc à assumer leur engagement à l'égard des milliers de personnes qui les ont aidés et qui sont désormais menacées de représailles par les talibans. Le sort d'une majeure partie d'entre elles reste toutefois très incertain. À New York, Loïc Loury.
30 heures de voyage depuis Kaboul est le début d'une nouvelle vie, selon les mots de Joe Biden, pour 221 Afghans, des interprètes, des guides, des conducteurs de véhicules ainsi que leurs familles. La suite, ce sont des examens médicaux et des démarches administratives à conclure. Ils seront relogés chez des proches s'ils le peuvent, ou dans le cas contraire, par l'État fédéral et l'agence de l'ONU chargée des migrations. Au total, ils sont ainsi 700 à avoir obtenu un visa spécial pour avoir aidé les Américains, 2500 personnes en comptant leur famille, attendue aux États-Unis dans les prochaines semaines. Mais après 20 ans de guerre, le compte est loin d'être bon. 18 000 personnes de plus, sans parler de leurs proches, ont fait une demande de visa, la plupart bloquées dans les limbes de la bureaucratie, notamment au stade des procédures de sécurité. Une partie d'entre eux pourrait être mise à l'abri à l'étranger, dans des pays tiers, Koweït ou Qatar notamment, mais leur sort est loin d'être clair. D'autres, enfin, n'ont sans doute pas même pu faire la moindre demande, piégés par les récentes avancées des talibans à quelques semaines du départ définitif des Américains d'Afghanistan. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et sur le terrain en Afghanistan, une attaque au lance-roquettes a visé hier les bureaux des Nations Unies à Herat. Cette grande ville de l'ouest du pays est actuellement le théâtre d'intenses combats entre les forces gouvernementales et les talibans qui étendent leur emprise sur le pays. Direction à présent Venise, qui ne verra plus les grands navires de croisière s'approcher du centre de la ville. À partir de demain, les bateaux de plus de 180 mètres de long ne seront plus autorisés à entrer dans le bassin et le canal de Saint-Marc et le canal de la Giudecca. Une bonne nouvelle, selon Monseigneur Francesco Moraglia, patriarche de Venise, qui s'inquiète cependant des conséquences économiques d'une telle mesure. On l'écoute.
C'est certainement une bonne nouvelle, car il y a 2 ans, à l'été 2019, nous avons eu 2 navires en difficulté. Il y avait un risque réel qu'un incident se produise, même pour la sécurité des personnes. Il s'agit donc certainement d'un bon début, d'une bonne nouvelle pour la défense et pour la protection de la ville de Venise. Mais nous sommes également un peu préoccupés par la question de l'emploi. Nous parlons de familles, de salaires, de personnes qui sont en difficulté ou qui le seront. Il faut aussi tenir compte du fait que cette difficulté économique se conjugue avec 2 années difficiles pour Venise, à commencer par la pandémie que nous partageons malheureusement avec le monde entier.
Des propos recueillis par Adriana Mazzotti. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse vaticannews.va. Ce matin, à 11h, ont été célébrées les funérailles du cardinal Vanois en la basilique Saint-Pierre. La cérémonie était présidée par le cardinal Leonardo Sandri, vice-doyen du Collège des cardinaux. Homme et chrétien rigoureux et déterminé, il a pu, à l'âge de 18 ans, traverser à pied la France occupée par les nazis afin de rejoindre la Compagnie de Jésus. Ce détail biographique en dit long sur toute son existence. Le père Albert n'a jamais cessé d'être en chemin, a expliqué le cardinal Sandri dans son homélie, rendant hommage aux jésuites spécialistes de la lettre aux Hébreux. Dans un message de condoléances, le pape François avait fait part de sa proximité aux proches du cardinal français, doyen du collège cardinalis, décédé à l'âge de 98 ans, saluant un frère qui a servi le Seigneur et l'Église avec un grand dévouement. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle après-midi, un très beau week-end. Au revoir.